Cette semaine, on vous invite à découvrir un lieu, la maison de Mons et ses habitants. Après une scénariste de BD, illustrateur, dessinateur de BD, comme habitant dans la maison de Mons, il y a un traducteur aussi, qui s'appelle Éric Moreau. Bonjour Éric.
Bonjour.
Pareil, même question que pour les autres. Si tu peux dire un peu ton parcours et puis comment ce parcours-là t'amène à la maison de Mons.
Donc moi je traduis de l'anglais, enfin du domaine anglophone, essentiellement domaine anglais américain. Ça va bientôt faire 25 ans. J'ai commencé à la fin de mes études d'anglais, donc en 2000. Et j'ai commencé en faisant beaucoup de romans policiers, notamment pour les éditions du Masque. Ensuite 10-18, un roman historique, policier historique. Et puis j'ai diversifié aussi vers le roman littérature classique, générale, on va dire. Et depuis 10 ans, je fais essentiellement de la littérature jeunesse pour Bayard Jeunesse. Toujours quelques polars ou romans de temps en temps. Et un petit peu de BD grâce à Cornelius, un éditeur qui est aussi bordelais.
Oui. Comment tu arrives ici ?
Comment j'arrive ici ? C'est un long cheminement. Donc, alors, traducteur, traductrice, c'est un métier qui est très solitaire. On est seul devant son texte toute la journée. On a quelques échanges avec nos éditeurs régulièrement, mais au quotidien, on se met au travail à notre table le matin et ça dure jusqu'au soir, comme ça. Pendant un mois, deux mois, le temps de la traduction. On est seul face à ça. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'espace de coworking, etc. Donc j'ai travaillé seul longtemps chez moi et ça a fini par me peser, comme pas mal d'autres. Donc là, je fais une avance rapide. Où, après diverses tentatives de techniques, de bibliothèques, etc., je suis allé dans les coworking, quand ça s'est généralisé un petit peu à Bordeaux. J'ai pratiqué ça quelques temps. Ensuite, pour diverses raisons, j'ai arrêté, je suis repassé par la case maison, et ça n'a pas été concluant. Donc j'envisageais de retourner en coworking, et à ce moment-là est arrivé l'appel à candidature pour la maison de Mons, qui est arrivée à point nommé. Donc j'ai tout de suite envoyé ma candidature, j'ai eu la chance d'être retenu, et depuis janvier, je viens ici tous les jours avec bonheur.
Voilà. Alors ça, c'est une question que j'ai posée à Anaïs, puisque tu dis que tu viens tous les jours, je rebondis là-dessus. Est-ce que c'est un cadre très... Tu te fixes un cadre très strict ou... Parce que ici, vous pouvez venir, j'ai compris, quand vous voulez.
On a la clé. Et alors moi, je me suis toujours imposé un rythme assez strict, effectivement, un rythme de travail, une discipline de travail assez stricte. Comme je te disais, donc j'ai le statut d'auteur, mais je ne suis pas créateur à l'origine de l'œuvre. Moi, je suis comme un interprète, on va dire, de classique qui a sa partition et qui doit la restituer. Donc ça demande une rigueur, une régularité, puisque moi, une de mes contraintes, et la principale, c'est de rendre à l'heure pour l'éditeur, pour ne pas, comment dire, décaler la chaîne du livre et toutes les étapes qu'il va y avoir après la remise de ma traduction. Donc le principal, c'est de rendre à l'heure. Et pour ça, quand on a 300 pages ou 400 pages, voire plus à traduire, même si on a 3 mois devant soi, il vaut mieux s'organiser si on ne veut pas avoir de mauvaise surprise à la fin. Donc je découpe bêtement le nombre de jours. Je compte le nombre de jours que j'ai. Je fais une division. Je garde du temps en plus pour la relecture et puis les quelques étapes comme ça. Et après, je m'astreins tous les jours un quota, un nombre de pages minimum à faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir ces délais sans... en pouvant dormir.
Donc ça marche en nombre de pages, pas en timing en fait. Tu te dis pas, je bosse. Par exemple, si t'as pas fini tes pages pour la journée, tu fais comment?
Alors, soit je fais une plus grande journée, soit je prends un peu de retard et je sais qu'à un moment il va falloir rattraper. C'est pour ça qu'on essaye de se laisser une petite marge, quand même. Ensuite, si vraiment, vraiment il y a du retard, il y a toujours la solution ultime d'appeler l'éditrice ou l'éditeur et de demander voilà, est-ce que je peux avoir une semaine en rab. Ou alors il faut travailler sur les week-ends, travailler sur le soir, faire une croix sur les vacances ou les jours fériés, comme c'est un petit peu mon quotidien depuis janvier, là, mais ça va se calmer là, maintenant.
Mmh. Oui, c'est un peu le problème des travaux solitaires comme ça, ça empiète sur tous les...
Ben, ça peut, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est très précieux d'avoir un cadre comme ici pour couper. Déjà, ça coupe de la maison. Pour se mettre au travail le matin, on est plus motivé au bureau que chez soi, à deux pas du canapé et du frigo. ici, voilà, au moins ici, je suis au travail, et puis quand je rentre, normalement, je coupe. Il peut arriver que, voilà, comme je disais... Là, je suis sur la fin de traduction, donc un petit peu la charrette, comme on dit. Donc, ça m'arrive de refaire une ou deux pages le soir, mais ça reste exceptionnel, on va dire.
Sur les genres que tu traduis, tu as dit que tu avais commencé par le policier, puis le roman historique policier. C'est des genres que toi, tu aimais, tu es allé vers ça
Oui, c'est ça qui m'a fait aller vers la traduction à l'origine. D'abord la littérature américaine sous toutes ses formes que j'ai découverte de façon plus approfondie pendant mes études à l'université, et ensuite ça s'est précisé avec le roman policier. Donc à l'époque je lisais beaucoup que ce soit français ou américain, mais les James Ellroy, Michael Connelly, les classiques du genre Raymond Chandler et tout ça. Donc j'étais très attiré par le policier, je ne lisais que ça. Et mon rêve, effectivement, c'était d'en traduire. Et je suis passé d'idole du rock à idole de la traduction après une rencontre avec le traducteur de James Ellroy, Freddy Michalski, qui avait fait une intervention dans le cadre de mes études, qui m'avait fait forte impression. Et je voulais être comme lui. Voilà.
Ah, c'est marrant ça. Ouais. Mais j'avais vu l'affiche de Bon Iver.
Ah oui, Bon Iver. Oui, c'est ça. C'est tout le domaine américain. C'est vrai que ça a été un cheminement depuis tout petit par la musique, par la culture pop, comme beaucoup de monde, je pense, dans notre milieu. Et ça s'est précisé ensuite avec la littérature et le cinéma. Tout ce monde-là.
Et comment tu passes après du roman policier à la littérature jeunesse, puis BD, BD ou c'est BD, c'est concomitant?
Si, voilà, ça s'est fait un petit peu au hasard, au fil des rencontres, avec des éditrices, des éditeurs. Donc le polar, ça avait été vraiment une marotte et un choix. Ensuite, pour l'exercice de la traduction, je voulais aussi faire de la traduction de littérature, ce qu'on appelle blanche, pour la différencier du roman noir. Donc ça, j'en ai fait un peu aussi. Je continue à en faire de temps en temps, selon les propositions des éditeurs. Et alors, pour la BD, ça a été une histoire de rencontre, vraiment de hasard. Avec un des éditeurs chez Cornelius, qui cherchait quelqu'un pour un recueil d'Adrienne Tominé. Et ça a bien, bien collé, et c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, quand ils ont une œuvre à faire traduire du domaine américain, surtout, ils continuent à faire appel à moi. Mais ça reste une petite friandise de temps en temps, on va dire. Vraiment, 95% de mon activité, c'est la traduction littéraire. Et depuis 10 ans, donc essentiellement de la jeunesse. Et ça, c'est pareil. C'est un hasard d'une ancienne éditrice de chez 18 qui a cheminé aussi dans d'autres maisons d'édition, qui pris un poste chez Bayard Jeunesse, qui cherchait quelqu'un pour un roman jeunesse, et ça, voilà, ça a commencé comme ça et depuis, c'est devenu l'essentiel de mon activité.
Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des particularités dans la démarche de traduction pour le roman policier, la BD, etc. Est-ce que plutôt, parce que ce serait, je pense, très long, mais peut-être, à quoi tu fais attention quand tu traduis de la BD, par exemple, par rapport au reste ?
Alors, la BD, c'est très particulier comme exercice. J'aime bien le comparer pour expliquer clairement au sous-titrage. Ce sont à peu près les mêmes contraintes. On est dans l'oralité, donc il faut que ce soit direct, compréhensible assez facilement, parce qu'on n'a pas le droit aux notes de bas de page, on n'a pas le droit aux phrases à rallonge, aux périphrases, etc. Et on a, une contrainte de concision aussi, parce qu'on a la contrainte de place dans la bulle. Donc, il faut prendre ça en compte. Et puis, et voilà. Donc, c'est comme si on avait une traduction, mais que de dialogue. Et voilà. Donc, ça, ce sont les contraintes. Et souvent, c'est un vocabulaire plus relâché, avec pas mal d'argot, des références culturelles aussi. Enfin, en tout cas, pour les BD que j'ai traduites, puisque c'est du roman graphique américain très contemporain. Mais c'est une langue que j'aime travailler, ça. Les dialogues, l'américain, l'argot. Il y a aussi des trouvailles sur certaines traductions. Il a fallu trouver des jeux de mots, des équivalences qu'on ne peut pas traduire telles quelles. Donc là, on est plus dans l'adaptation. Ça, c'est un travail très, très amusant à faire. Donc voilà, pour le polar, c'est ça. Et sinon, pour faire vite, effectivement, pour chaque type de traduction, chaque grande famille, on va dire, on ne traduit pas forcément de la même façon un roman policier qu'un roman qu'un classique de la littérature ou que de la littérature contemporaine. Pour la jeunesse, c'est la même chose. Alors là, en plus, ça dépend des âges, des tranches d'âge. On ne traduit pas pareil un roman pour un lectorat de 10-12 ans qu'un roman jeune adulte qui va jusqu'à 18-20 ans, 25 ans. Donc ça, on s'adapte et puis alors on le fait de nous-mêmes et puis on a aussi les demandes des éditrices, des éditeurs qui nous donnent des lignes directrices. Merci. Voilà. Donc ça change un petit peu selon les genres, selon les publics visés, voilà.
Et alors le fait d'être dans la maison de Mons, est-ce que des fois tu fais lire des choses, tu demandes si ça, enfin je sais pas, est-ce que tu profites sur le travail même de la traduction, de la présence d'auteurs de BD ou de...
Ça pourrait, ça s'est pas encore présenté, mais précédemment dans d'autres coworking, effectivement, j'avais une consoeur traductrice avec qui on pouvait se demander des petits tuyaux ou un avis sur une phrase, une tournure, un mot de lexique. Et puis j'avais aussi un copain rédacteur qui était anglais, donc ça aidait aussi effectivement. Ici j'ai pas encore été amené, mais ça fait que 3 mois que je suis là, 6 mois. Mais ce qui pourra me servir, c'est comme maintenant je commence à avoir un peu de bouteille, et ce qui m'intéresse, c'est il y a des bien plus jeunes que moi ici, qui sont plus au fait du vocabulaire, l'argot. Ça peut être une ressource intéressante pour moi, puisque moi, je suis complètement déconnecté de l'argot d'aujourd'hui. Enfin, j'entends ce qui se dit, mais je ne pratique et je ne pratique pas. Donc ça peut être quelque chose qui me servira.
Et pour finir, juste parce que chacun, en fait, vous êtes à chaque fois 3 dans une pièce ou
oui. Ça...
Ouais. Et chacun a son petit décorum.
Son petit point, ouais.
Alors toi, j'ai dit tout à l'heure, il y a une affiche de Bon Iver, ouais. Et il y a une carte de l'Écosse,
oui, des distilleries. Exactement. Oui.
Pourquoi t'as amené ça? De quoi t'as besoin?
Envie de m'approprier moi le lieu. Et puis j'aime bien la déco. D'ailleurs, ça faisait rire tout le monde parce que les 3-4 premiers mois où j'étais là, tous les jours, il y avait un petit quelque chose en plus. Je pourrais me travailler juste sur un portable, hein. J'ai pas besoin de grand chose d'autre. J'ai des décos papier, mais c'est plus pour la déco qu'autre chose. Maintenant, on trouve tellement de choses en ligne. Après, j'aime toujours manipuler les dictionnaires, mais bon, j'en ai quelques-uns là, quelques usuels, c'est vraiment les seuls que j'utilise. Après, sinon, voilà, c'est un bureau classique avec les stylos, un peu de papier, parce que j'aime bien aussi écrire comme ça. Mais sinon, moi, j'ai besoin d'un casque pour me couper du bruit, mon ordinateur, un accès Internet, et c'est réglé, quoi. Après, j'ai besoin de me sentir chez moi, donc voilà, un peu de déco.
D'accord. Un casque anti-bruit, tu vois,
Ah oui,
c'est-à-dire c'est.
réducteur de bruit.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc
Voilà,
c'est le
ça coupe
signal
un
quand tu
peu
l'enlèves, ça veut dire que tu peux
que je suis
communiquer.
ouvert à la communication. Voilà.
Ok. Eh ben, merci
Mais je
beaucoup
t'en prie.
et à bientôt.
Ah ben oui.